Les possédés. Première partie, chapitre 3, suite et fin. Stepan Trofimovitch resta indécis pendant une minute et me regarda, probablement sans me voir. Puis, prenant sa canne et son chapeau, il sortit sans bruit de la chambre. Je le suivis comme tantôt. En mettant le pied dans la rue, il m'aperçut à côté de lui et me dit « Ah oui, vous pouvez être témoin de l'accident. Vous m'accompagnerez, n'est-ce pas ?»« Stepan Trofimovitch, est-il possible que vous retourniez encore là? Songez-y, que peut-il résulter de cette démarche ?» Il s'arrêta un instant, et avec un sourire navré dans lequel il y avait de la honte et du désespoir, mais aussi une sorte d'exaltation étrange, il me dit à voix basse « Je ne puis pas épouser les péchés d'autrui !» C'était le mot que j'attendais. Enfin lui échappait. Après toute une semaine de tergiversations et de grimaces, le secret dont il avait tant tenu à me dérober à la connaissance. Je ne pus me contenir. Et une pensée si honteuse, si basse, a pu trouver accès chez vous, Stepan Trofimovitch, dans votre esprit éclairé, dans votre brave cœur, et cela avant même la visite de Lipoutine ? Il me regarda sans répondre et poursuivit son chemin. Je ne voulais pas en rester là. Je voulais porter témoignage contre lui devant Barbara Petrovna. Qu'avec sa facilité à croire le mal, il eût simplement ajouté foi aux propos d'une mauvaise langue, je le lui aurais encore pardonné. Mais non, il était clair maintenant que lui-même avait eu cette idée longtemps avant l'arrivée de Lipoutine. Ce dernier n'avait fait que confirmer des soupçons antérieurs et verser de l'huile sur le feu. Dès le premier jour, sans motif aucun, avant même les prétendues raisons fournies par Lipoutine, Stepan Trofimovitch n'avait pas hésité à incriminer, in petto, la conduite de Dasha. Il ne s'expliquait les agissements despotiques de Barbara Petrovna que par son désir ardent d'effacer au plus tôt les peccadilles aristocratiques de son inappréciable Nicolas en mariant la jeune fille à un homme respectable. Je voulais absolument qu'il fût puni d'une telle supposition. Oh Dieu, qui est si grand et si bon! Oh, qui me rendra la tranquillité? Soupira-t-il en s'arrêtant tout à coup après avoir fait une centaine de pas. « Rentrez immédiatement chez vous, et je vous expliquerai tout » criai-je en lui faisant faire demi-tour dans la direction de sa demeure. « C'est lui, Stepan Trofimovitch, c'est vous ? Vous ?» Fraîche, vibrante, juvénile, la voix qui prononçait ces mots résonnait à nos oreilles comme une musique. Nous ne voyions rien, mais soudain apparut à côté de nous une amazone. C'était Elisabeth Nikolaïevna, accompagnée de son cavalier habituel. Elle arrêta sa monture. « Venez, venez vite » cria-t-elle gaiement. « Je ne l'avais pas vue depuis 12 ans et je l'ai reconnue, tandis que lui, est-il possible que vous ne me reconnaissiez pas ?» Stepan Trofimovitch prit la main qu'elle lui tendait et la baisa pieusement. Il regarda la jeune fille avec une expression extatique, sans pouvoir proférer un mot. Il m'a reconnu et il est content. Maurice Nikolaïevitch, il est enchanté de me voir. Pourquoi donc n'êtes-vous pas venu durant ces 15 jours? Tante assurait que vous étiez malade et qu'on ne pouvait pas aller vous déranger. Mais je savais bien que ce n'était pas vrai. Je frappais du pied, je vous donnais tous les noms possibles, mais je voulais absolument que vous vinssiez vous-même le premier. C'est pourquoi je n'ai pas même envoyé chez vous. « Mon Dieu, mais il n'est pas du tout changé » ajouta-t-elle en se penchant sur sa selle pour examiner Stepan Trofimovitch. « C'est ridicule à quel point il est peu changé !»« Ah, si fait, pourtant, il y a de petites rides, beaucoup de petites rides autour des yeux et sur les tempes. Il y a aussi des cheveux blancs, mais les yeux sont restés les mêmes. Et moi, suis-je changé? Suis-je changé? Pourquoi donc vous taisez-vous toujours? Je me rappelais en ce moment qu'il m'avait raconté comme quoi elle avait pensé être malade, quand, à l'âge de 11 ans, on l'avait emmenée à Pétersbourg. Elle pleurait et demandait sans cesse Stepan Trofimovitch. « Vous, je... » bégaya-t-il dans l'excès de sa joie. Je venais de m'écrier « Qui me rendra la tranquillité ?» Lorsque j'ai entendu votre voix, je considère cela comme un miracle, et je commence à croire. En Dieu? En Dieu qui est là-haut et qui est si grand et si bon? Voyez-vous, j'ai retenu par cœur toutes vos leçons. Maurice Nikolaïevitch, quelle foi il me prêchait alors en Dieu qui est si grand et si bon! Et vous rappelez-vous quand vous me parliez de la découverte de l'Amérique? Des matelots de Colomb qui criaient « Terre! Terre !» Mon ancienne bonne, Alena Frolovna, dit que la nuit suivante j'ai rêvé et qu'en dormant je criais « Terre ! Terre !» Vous rappelez-vous que vous m'avez raconté l'histoire du prince Hamlet? Et comme vous me décriviez le voyage des pauvres émigrants européens qui vont en Amérique, vous en souvenez-vous? Il n'y avait pas un mot de vrai dans tout cela, j'ai pu m'en assurer plus tard. Mais si vous saviez, Maurice Nikolaïevitch, quelle belle chose il inventait! C'était presque mieux que la vérité. Pourquoi regardez-vous ainsi, Maurice Nikolaïevitch? C'est l'homme le meilleur et le plus sûr qu'il y ait sur le globe terrestre, et il faut absolument que vous l'aimiez comme vous m'aimez. Il fait tout ce que je veux. Mais, cher Stepan Trofimovitch, vous êtes donc encore malheureux pour crier au milieu de la rue « Qui me rendra la tranquillité ?» Vous êtes malheureux, n'est-ce pas? Oui. À présent, je suis heureux. Tante vous fait des misères? Continua-t-elle sans l'écouter. Elle est toujours aussi méchante et aussi injuste, cette inappréciable tante. Vous rappelez-vous le jour où vous vous êtes jetée dans mes bras au jardin et où je vous ai consolée en pleurant? Mais n'ayez donc pas peur de Maurice Nikolaïevitch. Il sait depuis longtemps tout ce qui vous concerne. Tout. Vous pourrez pleurer tant que vous voudrez sur son épaule. Il vous la prêtera fort complaisamment. Ôtez votre chapeau pour une minute. Levez la tête. Dressez-vous sur la pointe des pieds. Je vais vous embrasser sur le front, comme je vous ai embrassé pour la dernière fois quand nous nous sommes dit adieu. Voyez, cette demoiselle nous regarde par la fenêtre. Allons, plus haut, plus haut. Mon Dieu, comme il a blanchi! Et se courbant sur sa selle, elle le baisa au front. Allons, maintenant retournez chez vous. Je sais où vous demeurez. J'irai vous voir d'ici à une minute. C'est moi qui vous ferai visite la première, entêtée que vous êtes. Mais ensuite, je veux vous avoir chez moi pour toute une journée. Allez donc vous préparer à me recevoir. Sur ce, elle piqua des deux, suivie de son cavalier. Nous rebroussâmes chemin. De retour chez lui, Stepan Trofimovitch s'assit sur un divan et fondit en larmes. « Dieu, Dieu ! » s'écria-t-il. « Enfin une minute de bonheur !» Moins d'un quart d'heure après, Elisabeth Nikolaïevna arriva, selon sa promesse, escortée de son Maurice Nikolaïevitch. « Vous et le bonheur, vous arrivez en même temps !» dit Stepan Trofimovitch en se levant pour aller au-devant de la visiteuse. « Voici un bouquet pour vous. Je viens de chez Madame Chevalier. Elle aura des fleurs tout l'hiver. » Voici également Maurice Nikolaïevitch. Je vous prie de faire connaissance avec lui. J'aurais voulu vous apporter un pâté plutôt qu'un bouquet, mais Maurice Nikolaïevitch prétend que c'est contraire à l'usage russe. » Le capitaine d'artillerie qu'elle appelait Maurice Nikolaïevitch était un grand et bel homme de 35 ans. Il avait un extérieur très comme il faut, et sa physionomie imposante paraissait même sévère à première vue. Cependant, on ne pouvait l'approcher sans deviner presque aussitôt en lui une bonté étonnante et des plus délicates. Fort taciturne, il semblait très flegmatique et d'un caractère peu liant. Chez nous, dans la suite, on parla de lui comme d'un esprit borné, ce qui n'était pas tout à fait juste. Je ne décrirai pas la beauté d'Élisabeth Nikolaïevna. Déjà, elle avait arraché un cri d'admiration à toute la ville, quoique certaines de nos dames et de nos demoiselles protestassent avec indignation contre un pareil enthousiasme. Plusieurs parmi elles avaient déjà pris en grippe Élisabeth Nikolaïevna, surtout à cause de sa fierté. Les dames Drozdov n'avaient encore fait, pour ainsi dire, aucune visite, et, quoique ce retard fût dû en réalité à l'état maladif de Praskovie Ivanovna, on ne laissait pas d'en être mécontent. Un autre grief qu'on avait contre la jeune fille, c'était sa parenté avec la gouvernante. Enfin, on lui reprochait de monter à cheval tous les jours. On n'avait pas encore vu d'Amazone dans notre ville. La société devait naturellement trouver mauvais qu'Élisabeth Nikolaïevna se promenât à cheval avant même d'avoir fait les visites exigées par l'étiquette provinciale. Tout le monde savait d'ailleurs que ces promenades lui avaient été ordonnées par les médecins, et à ce propos, on parlait malignement de son défaut de santé. Elle ne se portait pas bien, en effet. Ce qui se remarquait en elle, à première vue, c'était une inquiétude maladive et nerveuse, une incessante fébrilité. Hélas, l'infortunée souffrait beaucoup, et tout s'expliqua plus tard. En évoquant aujourd'hui mes souvenirs, je ne dis plus qu'elle était une beauté, bien qu'elle me parût telle alors. Peut-être son physique laissait-il à désirer sur plus d'un point. Grande, mince, mais souple et forte, elle frappait par l'irrégularité de ses traits. Ses yeux étaient disposés un peu obliquement, à la kalmouque. Les pommettes de ses joues s'accusaient avec un relief particulier sur son visage maigre et pâle, de la pâleur propre aux brunes. Mais il y avait dans ce visage un charme dominateur et attirant. Une sorte de puissance se révélait dans le regard brûlant de ses yeux sombres. Élisabeth Nikolaïevna apparaissait comme une victorieuse et pour vaincre. Elle semblait fière, parfois même insolente. J'ignore si la bonté était dans sa nature. Je sais seulement qu'elle faisait sur elle-même les plus grands efforts pour être bonne. Sans doute il y avait en elle beaucoup de tendances nobles et d'aspirations élevées. Mais l'équilibre manquait à son tempérament moral, et les divers éléments qui le composaient, faute de pouvoir trouver leur assiette, formaient un véritable chaos, toujours en ébullition. Elle s'assit sur un divan et promena ses yeux autour de la chambre. « D'où vient que dans de pareils moments je suis toujours triste? Expliquez-moi cela, savant homme. Dieu sait combien je m'attendais à être heureuse lorsqu'il me serait donné de vous revoir. Et voilà qu'à présent je n'éprouve guère de joie, malgré toute mon affection pour vous. Ah Dieu, il a mon portrait. Donnez-le-moi, que je vois comment j'étais dans ce temps-là. » 9 ans auparavant, les Drozdov avaient envoyé de Pétersbourg à l'ancien précepteur de leur fille, une ravissante petite aquarelle représentant Lisa à l'âge de 12 ans. Depuis lors, ce portrait est toujours resté accroché à un mur chez Stepan Trofimovitch. « Est-ce que vraiment j'étais si jolie que cela, étant enfant? Est-ce là mon visage ?» Elle se leva et, tenant le portrait à la main, alla se regarder dans une glace. « Vite, reprenez-le ! » s'écria-t-elle en rendant l'aquarelle. « Ne le remettez pas à sa place maintenant, vous le rependrez plus tard. Je ne veux plus l'avoir sous les yeux. » Elle se rassit sur le divan. « Une vie a fini, une autre lui a succédé, qui à son tour s'est écoulée comme la première, pour être remplacée par une troisième, et toujours ainsi. Et chaque fin est une amputation. Voyez quelle banalité je débite, mais pourtant que cela est vrai. » Elle me regarda en souriant. Plusieurs fois déjà, elle avait jeté les yeux sur moi. Mais Stepan Trofimovitch, dans son agitation, avait oublié sa promesse de me présenter. « Pourquoi donc mon portrait est-il pendu chez vous sous des poignards? Et pourquoi avez-vous tant d'armes blanches ?» Le fait est que Stepan Trofimovitch avait, je ne sais pourquoi, ornait son mur d'une petite panoplie consistant en deux poignards croisés l'un contre l'autre au-dessous d'un sabre tcherkesse. Tandis qu'Elisabeth Nikolaïevna posait cette question, son regard était si franchement dirigé sur moi que je faillis répondre. Néanmoins, je gardai le silence. À la fin, Stepan Trofimovitch comprit mon embarras et me présenta à la jeune fille. « je sais, dit-elle, je suis enchantée. Maman a aussi beaucoup entendu parler de vous. Je vous prierai également de faire connaissance avec Maurice Nikolaïevitch. C'est un excellent homme. Je m'étais déjà fait de vous une idée ridicule. Vous êtes le confident de Stepan Trofimovitch, n'est-ce pas ? » Je rougis. « Ah, pardonnez-moi, je vous prie, je ne voulais pas dire cela. J'ai pris un mot pour un autre. Ce n'est pas ridicule du tout, mais... » Elle rougit et se troubla. « Du reste, pourquoi donc rougiriez-vous d'être un brave homme ? » ?»« Allons, il est temps de partir, Maurice Nikolaïevitch. Stepan Trofimovitch, il faut que vous soyez chez vous dans une demi-heure. Mon Dieu, que de choses nous dirons. Dès maintenant, je suis votre confidente. » Et vous me raconterez tout, vous entendez ? » À ces mots, l'inquiétude se manifesta sur le visage de Stepan Trofimovitch. « Oh, Maurice Nikolaïevitch, c'est tout. Sa présence ne doit pas vous gêner. »« Que sait-il donc ? » ?»« Mais qu'est-ce que vous avez ?» fit avec étonnement Elisabeth Nikolaïevna. « Bah, c'est donc vrai qu'on le cache ? Je ne voulais pas le croire. On cache aussi Dasha. » « Tante m'a empêchée d'aller voir Dasha, sous prétexte qu'elle avait mal à la tête. »« Mais comment avez-vous appris ?»« Ah, oh, mon Dieu, comme tout le monde, ce n'était pas bien malin. »« Mais est-ce que tout le monde... »« Et comment donc ? Maman, à la vérité, a d'abord su la chose par Alena Frolovna, ma bonne, à qui votre Nastasia avait couru tout raconter. Vous en avez parlé, Anastasia ? Elle dit tenir tout cela de vous-même. »
Je lui en ai parlé une fois, balbutia Stepan Trofimovitch, devenu tout rouge. Mais je me suis exprimé en termes vagues, j'étais si nerveux, si malade, et puis... »
Elle se mit à rire. « Et puis vous n'aviez pas de confident sous la main, et Nastasia s'est trouvée là pour en tenir lieu. Allons, cela se comprend. Mais Nastasia est en rapport avec tout un monde de commères. « Eh bien, après tout, quel mal y a-t-il à ce qu'on sache cela ? C'est même préférable. Ne tardez pas à arriver, nous dînons de bonne heure. »« Ah, j'oubliais !» ajouta-t-elle en se rasseyant. « Dites-moi, qu'est-ce que c'est que Chatov ?»«
Chatov, c'est le frère de Daria Pavlovna. »«
Cela, je le sais bien, que vous êtes drôle, vraiment » interrompit-elle avec impatience. « Je vous demande quelle espèce d'homme c'est. »
« C'est un songe creux d'ici. C'est le meilleur et le plus irascible des hommes. »
« J'ai moi-même entendu parler de lui comme d'un type un peu étrange. Du reste, il ne s'agit pas de cela. Il sait, m'a-t-on dit, trois langues, notamment l'anglais, et il peut s'occuper d'un travail littéraire. En ce cas, j'aurais beaucoup de besogne pour lui. Et il me faut un collaborateur. » Et plus tôt je l'aurai, mieux cela vaudra. Acceptera-t-il ce travail ? On me l'a recommandé.
Oh, certainement, et vous ferez une bonne action.
Ce n'est nullement pour faire une bonne action, c'est parce que j'ai besoin de quelqu'un.
Je connais assez bien Chatov, et si vous avez quelque chose à lui faire dire, je vais me rendre chez lui à l'instant même,
proposai-je. Dites-lui de venir chez nous demain à midi. Voilà qui est parfait. « Je vous remercie. Maurice Nikolaïevitch, vous êtes prêt ?»
Ils sortirent. Naturellement, je n'eus rien de plus pressé que de courir chez Chatov. Stepan Trofimovitch s'élança à ma suite et me rejoignit sur le perron.
« Mon ami, me dit-il, ne manquez pas de passer chez moi à 10 heures ou à 11 quand je serai rentré. Oh, j'ai trop de tort envers vous et envers tous, envers tous. »
Huit. Je ne trouvais pas Chatov chez lui. Je revins 2 heures après et ne fus pas plus heureux. Enfin, vers 8 heures, je fis une dernière tentative, décidé, si je ne le rencontrais pas, à lui laisser un mot. Cette fois encore, il était absent. Sa porte était fermée et il vivait seul, sans domestique. Je pensai à frapper en bas et à m'informer de Chatoff chez le capitaine Lebiatkin. Mais le logement de ce dernier était fermé aussi et paraissait vide. On n'y apercevait aucune lumière, on n'y entendait aucun bruit. En passant devant la porte du capitaine, j'éprouvai une certaine curiosité, car les récits de Lipoutine me revinrent alors à l'esprit. Je résolus de repasser le lendemain de grand matin. Connaissant l'entêtement et la timidité de Chatoff, je ne comptais pas trop, à vrai dire, sur l'effet de mon billet. Au moment où, maudissant ma malchance, je sortais de la maison, je rencontrai tout à coup M. Kirillov qui y entrait. Il me reconnut le premier. En réponse à ses questions, je lui appris sommairement le motif qui m'avait amené et lui parlai de ma lettre. « Venez avec moi, » dit-il, « je ferai tout. » Je me rappelai ce qu'avait raconté Lipoutine. En effet, l'ingénieur avait loué depuis le matin un pavillon en bois dans la cour. Ce logement, trop vaste pour un homme seul, il le partageait avec une vieille femme sourde qui faisait son ménage. Le propriétaire de l'immeuble possédait dans une autre rue une maison neuve dont il avait fait un tractir, et il avait laissé cette vieille, sans doute une de ses parentes, pour le remplacer dans sa maison de la rue de l'Épiphanie. Les chambres du pavillon étaient assez propres, mais la tapisserie était sale. La pièce où nous entrâmes ne contenait que des meubles de rebut achetés d'occasion. 2 tables de jeu, une commode en bois d'aune, une grande table en bois blanc, provenant sans doute d'une isba ou d'une cuisine quelconque, des chaises et un divan avec des dossiers à claire-voie et de durs coussins de cuir. Dans un coin se trouvait un icône devant lequel la femme, avant notre arrivée, avait allumé une lampe. Au mur étaient pendus 2 grands portraits à l'huile. Ces toiles enfumées représentaient l'une l'empereur Nicolas Pavlovitch, l'autre je ne sais quel évêque. En entrant, M. Kirillov alluma une bougie. Sa malle, qu'il n'avait pas encore défaite, était dans un coin. Il y alla prendre un bâton de cire à cacheter, une enveloppe et un cachet en cristal. « Cachetez votre lettre et mettez l'adresse. » Je répliquai que ce n'était pas nécessaire, mais il insista. Après avoir écrit l'adresse sur l'enveloppe, je pris ma casquette. « Mais je pensais que vous prendriez du thé, » dit-il. « J'ai acheté du thé, en voulez-vous » Je ne refusai pas. La femme ne tarda point à arriver, apportant une énorme théière pleine d'eau chaude, une petite pleine de thé, 2 grandes tasses de grès grossièrement peinturlurées, du pain blanc et une assiette couverte de morceaux de sucre. « J'aime le thé, » dit M. Kirillov. « J'en bois la nuit en me promenant jusqu'à l'aurore. À l'étranger, il n'est pas facile d'avoir du thé la nuit. » « Vous vous couchez à l'aurore ?»« Toujours, depuis longtemps. Je mange peu, c'est toujours du thé que je prends. Lipoutine est rusé, mais impatient. » Je remarquai avec surprise qu'il avait envie de causer. Je résolus de profiter de l'occasion. « Il s'est produit tantôt de fâcheux malentendus, » observai-je. Son visage se renfrogna. « C'est d'une bêtise, ce sont de purs rien, tout cela n'a aucune importance, attendu que Lebiatkin est un ivrogne. Je n'ai pas parlé à Lipoutine, je ne lui ai dit que des choses insignifiantes. C'est là-dessus qu'il a brodé toute une histoire. Lipoutine a beaucoup d'imagination, avec des riens il a fait des montagnes. Hier, je croyais à Lipoutine. Et aujourd'hui, à moi ? » Fis-je en riant. Mais vous savez tout depuis tantôt. Lipoutine est ou faible, ou impatient, ou nuisible, ou envieux. Ce dernier mot me frappa. Du reste, vous établissez tant de catégories qu'il doit probablement rentrer dans l'une d'elles.
Ou dans toutes à la fois.
C'est encore possible. Lipoutine est un chaos.
C'est vrai qu'il a blagué tantôt quand il a parlé d'un ouvrage que vous seriez en train d'écrire ?
L'ingénieur fronça de nouveau les sourcils et se mit à considérer le parquet.
Pourquoi donc a-t-il blagué ?
Je m'excusai et me défendis de toute curiosité indiscrète. Monsieur Kirillov rougit.
Il a dit la vérité, j'écris, mais tout cela est indifférent.
Nous nous tûmes pendant une minute.
Tout à coup, je vis reparaître sur son visage le sourire enfantin que j'avais déjà observé chez lui.
Il a mal compris. Je cherche seulement les causes pour lesquelles les hommes n'osent pas se tuer. Voilà tout. Du reste, cela aussi est indifférent.
Comment ils n'osent pas se tuer? Vous trouvez qu'il y a peu de suicides?
Fort peu.
Vraiment, c'est votre avis?
Sans répondre, il se leva et, rêveur, commença à se promener de long en large dans la chambre.
Qu'est-ce donc qui, selon vous, empêche les gens de se suicider? Demandai-je.
Il me regarda d'un air distrait, comme s'il cherchait à se rappeler de quoi nous parlions.
Je ne le sais pas encore bien. Deux préjugés les arrêtent. Deux choses. Il n'y en a que deux. L'une est fort insignifiante, l'autre très sérieuse. Mais la première ne laisse pas elle-même d'avoir beaucoup d'importance.
Quelle est-elle ?
La souffrance.
La souffrance ? Est-il possible qu'elle joue un si grand rôle dans ce cas ?
Le plus grand. Il faut distinguer. Il y a des gens qui se tuent sous l'influence d'un grand chagrin, ou par colère, ou parce qu'ils sont fous, ou parce que tout leur est égal.
Cela se donne la mort brusquement et ne pense guère à la souffrance. Mais ceux qui se suicident par raison y pensent beaucoup.
Est-ce qu'il y a des gens qui se suicident par raison?
En très grand nombre. N'étaient les préjugés, il y en aurait encore plus. Ce serait la majorité. Ce serait tout le monde.
Allons donc, tout le monde.
L'ingénieur ne releva pas cette observation.
Mais n'y a-t-il pas des moyens de se donner la mort sans souffrir?
Représentez-vous, dit-il en s'arrêtant devant moi, une pierre de la grosseur d'une maison de 6 étages. Supposez-la suspendue au-dessus de vous. Si elle vous tombe sur la tête, aurez-vous mal?
Une pierre grosse comme une maison? Sans doute c'est effrayant.
Je ne parle pas de frayeur. Aurez-vous mal?
Une pierre de la grosseur d'une montagne, une pierre d'un 1 000 000 de pounds, naturellement, je ne souffrirai pas.
Mais tant qu'elle restera suspendue au-dessus de vous, vous aurez grand peur qu'elle ne vous fasse mal. Personne, pas même l'homme le plus savant, ne pourra se défendre de cette impression. Chacun saura que la chute de la pierre n'est pas douloureuse, et chacun la craindra comme une souffrance extrême.
« Eh bien, et la seconde cause, celle que vous avez déclarée sérieuse ?»«
C'est l'autre monde. »«
C'est-à-dire la punition ?»«
Cela, ce n'est rien. L'autre monde, tout simplement. »«
Est-ce qu'il n'y a pas des athées qui ne croient pas du tout à l'autre monde ?»
Monsieur Kirillov ne répondit pas.
« Vous jugez peut-être d'après vous ?»«
On ne peut jamais juger que d'après soi. » dit-il en rougissant. « La liberté complète existera quand il sera indifférent de vivre ou de ne pas vivre. Voilà le but de tout. »
« Le but ? Mais alors personne ne pourra et ne voudra vivre ?»«
Personne, » reconnut-il sans hésitation.
« L'homme a peur de la mort parce qu'il aime la vie. Voilà comme je comprends la chose, » observai-je. « Et la nature l'a voulu ainsi. »
C'est une lâcheté greffée sur une imposture, répliqua-t-il avec un regard flamboyant.
La vie est une souffrance, la vie est une crainte, et l'homme est un malheureux. Maintenant, il n'y a que souffrance et crainte. Maintenant, l'homme aime la vie parce qu'il aime la souffrance et la crainte. C'est ainsi qu'on l'a fait. On donne maintenant la vie pour une souffrance et une crainte.
ce qui est un mensonge. L'homme d'à présent n'est pas encore ce qu'il doit être. Il viendra un homme nouveau, heureux et fier. Celui à qui il sera égal de vivre ou ne pas vivre, celui-là sera l'homme nouveau. Celui qui vaincra la souffrance et la crainte, celui-là sera Dieu, et l'autre Dieu n'existera plus.
Alors, vous croyez à son existence ?
Il existe sans exister. Dans la pierre, il n'y a pas de souffrance, mais il y en a une dans la crainte de la pierre. Dieu est la souffrance que cause la crainte de la mort. Qui triomphera de la souffrance et de la crainte deviendra lui-même Dieu. Alors commencera une nouvelle vie, un nouvel homme, une rénovation universelle. Alors on partagera l'histoire en deux périodes. Depuis le gorille jusqu'à l'anéantissement de Dieu, et depuis l'anéantissement de Dieu jusqu'au gorille, jusqu'au changement physique de l'homme et de la terre. L'homme sera Dieu et changera physiquement. Une transformation s'opérera dans le monde, dans les pensées, les sentiments, les actions. Croyez-vous qu'alors l'homme ne subira pas un changement physique ?
S'il devient indifférent de vivre ou de ne pas vivre, tout le monde se tuera. Et voilà peut-être en quoi consistera le changement.
Cela ne fait rien. On tuera le mensonge. Quiconque aspire à la principale liberté ne doit pas craindre de se tuer. Qui ose se tuer a découvert où gît l'erreur. Il n'y a pas de liberté qui dépasse cela. Tout est là, et au-delà il n'y a rien. Qui ose se tuer est Dieu. À présent, chacun peut faire qu'il n'y ait plus ni Dieu ni rien, mais personne ne l'a encore fait.
Il y a eu des millions de suicidés.
Mais jamais ils ne se sont inspirés de ce motif. Toujours ils se sont donné la mort avec crainte, et non pour tuer la crainte. Celui qui se tuera pour tuer la crainte, celui-là deviendra Dieu aussitôt.
Il n'en aura peut-être pas le temps, remarquai-je.
Cela ne fait rien, répondit M. Kirillov avec une fierté tranquille et presque dédaigneuse. Je regrette que vous ayez l'air de rire, ajouta-t-il une demi-minute après.
Et moi, je m'étonne que vous, si irascible tantôt, vous soyez maintenant si calme, nonobstant la chaleur avec laquelle vous parlez.
Tantôt c'était ridicule, reprit-il avec un sourire. Je n'aime pas à quereller, et je ne me le permets jamais, ajouta-t-il d'un ton chagrin.
Elles ne sont pas gaies les nuits que vous passez à boire du thé.
Ce disant, je me levai et pris ma casquette.
Vous croyez ? Fit l'ingénieur en souriant d'un air un peu étonné.
Pourquoi donc ?
Non, je ne sais comment font les autres, mais je sens que je ne puis leur ressembler. Chacun pense successivement à diverses choses. Moi, j'ai toujours la même idée dans l'esprit, et il m'est impossible de penser à une autre. Dieu m'a tourmenté toute ma vie, acheva-t-il avec une subite et singulière expansion.
Permettez-moi de vous demander pourquoi vous parlez si mal le russe. Se peut-il qu'un séjour de 5 ans à l'étranger vous ait fait oublier à ce point votre langue maternelle?
Est-ce que je parle mal? Je n'en sais rien. Non, ce n'est pas parce que j'ai vécu à l'étranger. J'ai parlé ainsi toute ma vie. Cela m'est égal.
Encore une question. Celle-ci est plus délicate. Je suis persuadée que vous disiez vrai quand vous déclariez avoir peu de goût pour la conversation. Dès lors, pourquoi vous êtes-vous mise à causer avec moi ?
Avec vous ? Vous avez eu tantôt une attitude fort convenable, et vous...
Du reste, tout cela est indifférent. Vous ressemblez beaucoup à mon frère.
La ressemblance est frappante, dit-il en rougissant. Il est mort il y a 7 ans. Il était beaucoup plus âgé que moi.
Et il a dû avoir une grande influence sur la tournure de vos idées.
Non, il parlait peu, il ne disait rien.
Je remettrai votre lettre.
Il m'accompagna avec une lanterne jusqu'à la porte de la maison pour la fermer quand je serais parti.
Assurément, il est fou, décidai-je à part moi.
Au moment de sortir,
je fis une nouvelle rencontre.
IX. Comme j'allais franchir le seuil, je me sentis empoigné tout à coup en pleine poitrine par une main vigoureuse. En même temps, quelqu'un criait « Qui es-tu ? Ami ou ennemi ? Réponds !»«
C'est un des nôtres ! Un des nôtres !»
fit la voix glapissante de Lipoutine.
« C'est Monsieur Giff, un jeune homme qui a fait des études classiques et qui est en relation avec la plus haute société. »
« J'aime qu'on soit en relation avec la société classique, par conséquent très instruit. Le capitaine en retraite, Ignace Lebiatkin, à la disposition du monde et des amis, s'ils sont vrais, les coquins. »
Le capitaine Lebiatkin, dont la taille mesurait 2 archines divers chocs, était un gros homme à la tête crépue et au visage rouge. En ce moment, il était tellement ivre qu'il avait peine à se tenir sur ses jambes et parlait avec beaucoup de difficulté. Du reste, j'avais déjà eu auparavant l'occasion de l'apercevoir de loin.
« Ah, encore celui-ci » vociféra-t-il de nouveau à la vue de Kirillov, qui était encore là avec sa lanterne. Il leva le poing, mais s'en tint à ce geste.
« Je pardonne en considération du savoir. Ignace Lebiatkin est un homme cultivé. L'obus d'un amour aussi brûlant que folle avait éclaté dans le cœur d'Ignace et tristement séché sur place le manchot de Sébastopol. À la vérité, je n'ai pas été à Sébastopol, et je ne suis même pas manchot. Mais quel verre ! »
dit-il en avançant vers moi sa trogne enluminée. Il n'a pas le temps, il est pressé, il faut qu'il rentre chez lui, fit observer Lipoutine au capitaine. Demain il dira cela à Elisabeth Nikolaïevna.
À Elisabeth, reprit Lebiatkin. Attends, ne t'en va pas. Variante. Passe au trot d'un cheval fringant, une étoile que l'on admire, elle m'adresse un doux sourire, l'aristocratique enfant, à une étoile amazone. « Mais voyons, c'est un hymne si tu n'es pas un âne. Ils ne comprennent rien. Attends »
fit-il en se cramponnant à mon paletot, malgré mes efforts pour me dégager.
« Dis-lui que je suis un chevalier d'honneur, mais que Dashka, avec mes 2 doigts, je la... C'est une serve, et elle n'osera pas. »
Grâce à une violente secousse qui le jeta par terre, je réussis à m'arracher de ses mains et je m'élançai dans la rue. Lipoutine s'accrocha à moi.
Alexis Nilitch le relèvera. Savez-vous ce que le capitaine Lebiatkin vient de m'apprendre ?
Me dit-il précipitamment. Vous avez entendu ces vers ? Eh bien, cette même poésie dédiée à une étoile amazone, il l'a signée, mise sous enveloppe, et demain il l'enverra à Elisabeth Nikolaïevna.
« Quel homme !»«
Je parierais qu'il a fait cela à votre instigation. »«
Vous perdriez, » répondit en riant Lipoutine. « Il est amoureux comme un matou. Et figurez-vous que cette passion a commencé par la haine. D'abord, il détestait Elisabeth Nikolaïevna parce qu'elle s'adonne à l'équitation. Il la haïssait au point de l'invectiver à haute voix dans la rue. Avant-hier encore, au moment où elle passait à cheval, il lui a lancé une bordée d'injures. Par bonheur, elle ne les a pas entendues. Et tout à coup, aujourd'hui, des vers. Savez-vous qu'il veut risquer une demande en mariage ? Sérieusement, sérieusement.
Je vous admire, Lipoutine. Partout où se manigance quelque vilenie de ce genre, on est sûr de retrouver votre main. Dis-je avec colère.
Vous allez un peu loin, monsieur Géve. N'est-ce pas la peur d'un rival qui agite votre petit cœur ?
Quoi ? Criai-je en m'arrêtant.
Pour vous punir, je ne dirai rien de plus. Vous voudriez bien en apprendre davantage, n'est-ce pas ?
Allons, sachez encore une chose. Cet imbécile n'est plus maintenant un simple capitaine, mais un propriétaire de notre province, et même un propriétaire assez important.
attendu que dernièrement, Nicolas Vsevolodovitch lui a vendu tout son bien, évalué, suivant l'ancienne estimation, à 200 âmes. Dieu est témoin que je ne vous mens pas. J'ai eu tout à l'heure seulement connaissance du fait, mais je le tiens de très bonne source. Maintenant, à vous de découvrir le reste. Je n'ajoute plus un mot. Au revoir.
Stepan Trofimovitch m'attendait avec une impatience extraordinaire. Il était de retour depuis une heure. Je le trouvais comme en état d'ivresse. Du moins, pendant les 5 premières minutes, je le crus ivre. Hélas, sa visite aux dames Drozdov l'avait mis sans dessus-dessous.
« Mon ami, j'ai complètement perdu le fil. J'aime Lisa, et je continue à vénérer cet ange comme autrefois. Mais il me semble qu'elle et sa mère désiraient me voir uniquement pour me faire parler, c'est-à-dire pour m'extirper des renseignements. Je pense qu'elle n'avait pas d'autre but en m'invitant à aller chez elle. C'est ainsi. »
« Comment n'êtes-vous pas honteux de dire cela ? » répliquai-je violemment.
« Mon ami, je suis maintenant tout seul. Enfin, c'est ridicule. Figurez-vous qu'il y a là tout un monde de mystères. Ce qu'elles m'ont questionné à propos de ses nez, de ses oreilles et de divers incidents obscurs survenus à Pétersbourg, elles n'ont appris que depuis leur arrivée dans notre ville les farces que Nicolas a faites chez nous il y a 4 ans. « Vous étiez ici, vous l'avez vu. Est-il vrai qu'il soit fou ? Je ne comprends pas d'où cette idée leur est venue. Pourquoi Praskovia Ivanovna veut-elle absolument que Nicolas soit fou ? C'est qu'elle y tient, cette femme, elle y tient. Ce Maurice Nikolaïevitch est un brave homme tout de même. Mais est-ce qu'elle travaillerait pour lui après qu'elle-même a écrit la première de Paris à cette pauvre amie ? Enfin, cette Praskovia est un type... Elle me rappelle Korobotchka, l'inoubliable création de Gogol. Seulement, c'est une Korobotchka en grand, en beaucoup plus grand.
Allons donc, est-ce possible? Si vous voulez, je dirais, en plus petit, cela m'est égal. Mais ne m'interrompez pas, vous achèveriez de me dérouter.
Elles sont maintenant à couteau tiré. Je ne parle pas de Lise, qui est toujours fort bien avec tante, comme elle dit. Lise est une rusée, et il y a encore quelque chose là, des secrets. Mais avec la vieille, la rupture est complète. Cette pauvre tante, il est vrai, tyrannise tout le monde. Et puis la gouvernante, l'irrévérence de la société, l'irrévérence de Karmazinov, l'idée que son fils est peut-être fou, ce Lipoutine, ce que je ne comprends pas. Bref, elle a dû, dit-on, s'appliquer sur la tête une compresse imbibée de vinaigre. Et c'est alors que nous venons l'assassiner de nos plaintes et de nos lettres. Oh, combien je l'ai fait souffrir, et dans quel moment! Je suis un ingrat. Imaginez-vous qu'en rentrant, j'ai trouvé une lettre d'elle. Lisez, lisez! Oh, quelle a été mon ingratitude!
Il me tendit la lettre qu'il venait de recevoir de Barbara Petrovna. La générale, regrettant sans doute son « Restez chez vous » du matin, avait cette fois écrit un billet poli, mais néanmoins ferme et laconique. Elle priait Stepan Trofimovitch de venir chez elle après-demain, dimanche, à midi précis, et lui conseillait d'amener avec lui quelqu'un de ses amis. Mon nom était mis entre parenthèses. De son côté, elle promettait d'inviter Chatov, comme frère de Daria Pavlovna. Vous pourrez recevoir d'elle une réponse définitive. Cela vous suffira-t-il? Est-ce cette formalité que vous aviez tant à cœur?
Remarquez l'agacement qui perce dans la phrase finale. Pauvre, pauvre ami de toute ma vie. J'avoue que cette décision inopinée de mon sort m'a pour ainsi dire écrasée. Jusqu'alors, j'espérais toujours... Mais maintenant tout est dit, je sais que c'est fini, c'est terrible. Oh, si ce dimanche pouvait ne pas arriver, si les choses pouvaient suivre leur train-train accoutumé.
Tous ces ignobles commérages de Lipoutine vous ont mis l'esprit à l'envers.
Vous venez de poser votre doigt d'ami sur un autre endroit douloureux.
Ces doigts d'ami sont en général impitoyables et parfois insensés.
Pardon, mais le croirez-vous? J'avais presque oublié tout cela, toutes ces vilenies. C'est-à-dire que je ne les avais pas oubliées du tout. Seulement, bête comme je le suis, pendant tout le temps de ma visite chez Lise, j'ai tâché d'être heureux et je me suis persuadé que je l'étais.
Mais maintenant, oh, maintenant je songe à cette femme magnanime, humaine, indulgente pour mes misérables défauts.
Je me trompe, elle n'est pas indulgente du tout. Mais moi-même, que suis-je avec mon vain et détestable caractère?
Un gamin, un être qui a tout l'égoïsme d'un enfant sans en avoir l'innocence.
Pendant 20 ans, elle a eu soin de moi comme une gnagna, cette pauvre tante, ainsi que l'appelle gracieusement Lise.
Tout à coup, au bout de 20 ans, l'enfant a voulu se marier.
Eh bien, va, marie-toi.
Il écrit, elle répond,
avec sa tête dans le vinaigre.
Et voilà que dimanche, l'enfant sera un homme marié.
Pourquoi moi-même ai-je insisté? Pourquoi ai-je écrit ces lettres?
Oui, j'oubliais. Lise adore Daria Pavlovna, elle l'assure du moins.
« C'est un ange, » dit-elle en parlant d'elle.
« Seulement elle est un peu dissimulée. »
Elle et sa mère m'ont conseillé. C'est-à-dire que Praskovy ne m'a rien conseillé. Oh, que de venin il y a dans cette korobotchka!
Et même Lise, ce n'est pas précisément un conseil qu'elle m'a donné.
« À quoi bon vous marier ? » m'a-t-elle dit.
« C'est assez pour vous des joies de la science. »
Là-dessus, elle s'est mise à rire. Je le lui ai pardonné, parce qu'elle a aussi sa grosse part de chagrin.
« Pourtant, m'ont-elles dit, vous ne pouvez pas vous passer de femme.
Les infirmités vont venir, il vous faut quelqu'un qui s'occupe de votre santé. »
Ma foi, moi-même, tout le temps que je suis restée enfermée avec vous, je me disais, in petto, que la Providence m'envoyait Daria Pavlovna au déclin de mes jours orageux, qu'elle s'occuperait de ma santé, qu'elle mettrait de l'ordre dans mon ménage. Il fait si sale chez moi.
Regardez, tout est en déroute.
Tantôt j'ai ordonné de ranger.
Eh bien, voilà encore un livre qui traîne sur le plancher.
La pauvre amie se fâchait toujours en voyant la malpropreté de mon logement.
Oh, maintenant sa voix ne se fera plus entendre.
20 ans.
Elle reçoit, paraît-il, des lettres anonymes. Figurez-vous, Nicolas aurait vendu son bien à Lebiatkin.
C'est un monstre.
Et enfin, qu'est-ce que c'est que Lebiatkin?
Lise écoute, écoute. Oh, il faut l'avoir écouté. Je lui ai pardonné son rire en remarquant quelle attention elle prêtait à cela.
Et ce Maurice? Je ne voudrais pas être à sa place en ce moment. C'est un brave homme tout de même, mais un peu timide.
Du reste, que Dieu l'assiste.
La fatigue l'obligea à s'arrêter. D'ailleurs, ses idées se troublaient de plus en plus. Il baissa la tête et, immobile, se mit à regarder le plancher d'un air las. Je profitai de son silence pour raconter ma visite à la maison Philippov. À ce propos, j'émis froidement l'opinion qu'en effet la sœur de Lebiatkin, que je n'avais pas vue, pouvait avoir été victime de Nicolas à l'époque où celui-ci menait, suivant l'expression de Lipoutine, une existence énigmatique. Dès lors, il était fort possible que Lebiatkin reçût de l'argent de Nicolas. Mais c'était tout. Quant au racontard concernant Daria Pavlovna, je l'ai traité de vile calomnie, en m'autorisant du témoignage d'Alexis Nilitch, dont il n'y avait pas lieu de mettre en doute la véracité. Stepan Trofimovitch m'écouta d'un air distrait, comme si la chose ne l'eût aucunement intéressé. Je lui fis part aussi de ma conversation avec Kirillov, et j'ajoutai que ce dernier était peut-être fou. « Il n'est pas fou, mais c'est un homme à idées courtes, » répondit-il avec une sorte d'ennui.
« Ces gens-là supposent la nature et la société humaine autre que Dieu ne les a faites et qu'elles ne sont réellement. »
On coquette avec eux, mais du moins ce n'est pas Stepan Trofimovitch.
Je les ai vus dans le temps à Pétersbourg, avec cette chère amie.
Oh, combien je l'ai offensée alors!
Et je n'ai eu peur ni de leurs injures, ni même de leurs éloges.
je ne les crains pas davantage maintenant. Mais parlons d'autre chose. Je crois que j'ai fait de terribles sottises. Imaginez-vous que j'ai écrit hier à Daria Pavlovna, et combien je m'en repens. Qu'est-ce que vous lui avez donc écrit ? Oh, mon ami, soyez sûr que j'ai obéi à un sentiment très noble. Je l'ai informé que j'avais écrit 5 jours auparavant à Nicolas. La délicatesse m'avait aussi inspiré cette démarche. À présent, je comprends, fis-je avec véhémence. De quel droit vous êtes-vous permis de les mettre ainsi, tous les deux, sur la sellette ? Mais, mon cher, n'achevez pas de m'écraser. Épargnez-moi vos cris. Je suis déjà aplati comme une blatte. Et enfin, je trouve que ma conduite a été pleine de noblesse. Supposez qu'il y ait eu en effet quelque chose, en Suisse, ou un commencement. Je dois au préalable interroger leur cœur pour... enfin, pour ne pas me jeter à la travers de leurs amours, pour ne pas être un obstacle sur leur chemin. Tout ce que j'en ai fait, ça a été par noblesse d'âme. Oh, mon Dieu, que vous avez agi bêtement ! Ne pus-je m'empêcher de m'écrier. Bêtement ! Bêtement ! Répéta-t-il avec une sorte de jouissance. Jamais vous n'avez rien dit de plus sage. C'était bête, mais que faire ? Tout est dit. De toute façon, je me marie. Dussé-je épouser les péchés d'autrui ? Dès lors, quel besoin avais-je d'écrire, n'est-il pas vrai ? Vous revenez encore là-dessus ? Oh, à présent, faites-moi grâce de vos reproches. Vous n'avez plus maintenant devant vous l'ancien Stepan Verkhovensky. Celui-là est enterré. Enfin, tout est dit. D'ailleurs, pourquoi criez-vous ? Uniquement parce que vous-même ne vous mariez pas et que vous n'êtes point dans le cas de porter sur la tête certains ornements. Vous froncez encore les sourcils ? Mon pauvre ami, vous ne connaissez pas la femme. Et moi, je n'ai fait que l'étudier. Si tu veux vaincre le monde, commence par te vaincre. C'est la seule belle parole qu'ait jamais dite un autre romantique comme vous. Chatoff, mon futur beau-frère. Je lui emprunte volontiers son aphorisme. Eh bien voilà, je suis prêt à me vaincre. Je vais me marier, et pourtant je ne vois pas quelle espèce de victoire je remporterai, sans même parler de celle sur le monde. Oh, mon ami, le mariage, c'est la mort morale de toute âme fière, de toute indépendance. La vie conjugale me pervertira, m'enlèvera mon énergie, mon courage pour le service de la cause. J'aurai des enfants, et qui pisait ? Des enfants dont je ne serai pas le père. Le sage ne craint pas de regarder la vérité en face. Lipoutine me conseillait tantôt de me barricader pour me mettre à l'abri de Nicolas. Il est bête, Lipoutine. La femme trompe même l'œil qui voit tout. Le bon Dieu, en créant la femme, savait sans doute à quoi il s'exposait. Mais je suis convaincue qu'elle-même lui a imposé ses idées, qu'elle l'a forcé à la créer avec telle forme et tels attributs. Autrement, qui donc aurait voulu s'attirer tant d'ennuis sans aucune compensation ? Il n'aurait pas été lui-même s'il n'avait pas lâché quelqu'une de ces faciles plaisanteries voltairiennes qui étaient si à la mode au temps de sa jeunesse. Mais, après s'être ainsi égayé durant une minute, il recommença à broyer du noir. « Oh, pourquoi faut-il que cette journée d'après-demain arrive ? » s'écria-t-il tout à coup avec un accent désespéré. « Pourquoi n'y aurait-il pas une semaine sans dimanche, si le miracle existe ? Voyons, qu'est-ce qu'il en coûterait à la Providence de biffer un dimanche du calendrier, ne fût-ce que pour prouver son pouvoir à un athée ? Oh, que je l'ai aimé ! 20 années, 20 années entières, et jamais elle ne m'a compris. « Mais de qui parlez-vous ? Je ne vous comprends pas non plus, » demandai-je avec étonnement. « 20 ans, et pas une seule fois elle ne m'a compris. Oh, c'est dur. Et se peut-il qu'elle croie que je me marie par crainte, par besoin ? Oh, honte ! Tante, tante, c'est pour toi que je le fais. Oh, qu'elle sache, cette tante, qu'elle est la seule femme dont j'ai été épris pendant 20 ans. Elle doit le savoir. » Sinon cela ne se fera pas. sinon il faudra employer la force pour me traîner sous ce qu'on appelle la viennette. »
C'était la première fois que j'entendais cet aveu qu'il formulait si énergiquement. Je ne cacherai pas que j'eus une terrible envie de rire. Elle était fort déplacée. Soudain, une pensée nouvelle s'offrit à l'esprit de Stepan Trofimovitch.
« À présent, je n'ai plus que lui. Il est ma seule espérance !»
s'écria-t-il en frappant tout à coup ses mains l'une contre l'autre.
« Seul maintenant, mon pauvre garçon me sauvera, et... Oh, pourquoi donc n'arrive-t-il pas ? Oh, mon fils, oh, mon Petroucha ! Sans doute, je suis indigne du nom de père. Je mériterais plutôt celui de tigre, mais... Laissez-moi, mon ami, je vais me mettre un moment au lit pour recueillir mes idées. Je suis si fatiguée. Et vous-même, il est temps que vous alliez vous coucher, voyez-vous, il est minuit. »